Seigneur, nous voulons te présenter notre frère ce matin, Seigneur, qui est celui que tu as désigné, Seigneur mon Dieu, pour qu'il puisse parler, Seigneur mon Dieu, donner le message que tu as mis dans son cœur, Seigneur mon Dieu. J'ai prié, Seigneur mon Dieu, pour que, Seigneur, ce message puisse nous toucher ce matin, et que nous puissions être transformés par ce message, Seigneur mon Dieu. Seigneur, Saint-Esprit, prends toute la place, Seigneur mon Dieu, pour que tout ce qui n'est pas de toi puisse se taire à jamais et que, Seigneur, que c'est toi qui puisse rayonner en lui, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie de ce que nous soyons réceptifs ce matin à ta parole et que nous soyons transformés par elle. Ainsi, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Bonjour. Ce matin, on va continuer la série qui a été amorcée sur la prière. Puis, bon, vous l'aurez peut-être un peu deviné, on va parler de la prière d'action de grâce. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Et pour ça, je vais vous inviter à prendre la lettre aux Philippiens, versets 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, versets 6 à 9. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. On évoque dans le texte quatre formes de prière. Les deux premières, qui apparaissent au début, on dit « faites des prières et des supplications et des actions de grâce ». Donc, les deux premières, les demandes, supplications, et la deuxième, action de grâce. On va commencer par voir un peu la prière de demande, en quoi ça consiste. À une époque de ma vie de chrétien, je me disais que faire des prières de demande, c'était un peu effronté. On n'a pas embarqué là-dedans, puis à demander ça à Dieu. Dieu connaît de toute façon ce qu'on a besoin, puis ce n'était pas nécessairement une bonne chose. Puis pourquoi toujours demander, puis agir comme des quêteux avec Dieu, et pourquoi pas juste lui offrir des actions de grâce. Et un jour, j'ai eu une discussion avec Mohamed, un musulman, pas le prophète, là, Mohamed, un ami musulman, qui lui disait, « Martin, c'est l'occasion rêvée de faire des demandes pour s'humilier devant Dieu et montrer notre humilité face à lui. » Bon, premier coup de conversion avec un musulman. Merveilleux. C'est un musulman qui m'a aidé à devenir meilleur chrétien. Puis en effet, je pense qu'avec le temps, je peux dire que Mohamed avait raison. Surtout dans cette partie-là, hein, c'est bien formulé dans la version qu'on a ici, « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Quand on fait connaître ce qu'on a besoin à Dieu, ben, quand on lui exprime ce qu'on veut et ce qu'on a besoin, il y a des choses qui seront exaucées, il y a des choses qui ne le seront pas. Selon notre compréhension, bien évidemment. Mais le Seigneur, de toute façon, fait sa volonté. C'est lui qui décide ce qui va se faire, ce qui ne se fera pas. Et c'est aussi pourquoi, parce qu'il y a un plan pour nous, que nous, on ne saisit pas toujours. On se dit, mais en même temps, si Dieu est tout-puissant, si Dieu est omniscient, pourquoi j'ai besoin de formuler mes demandes à Dieu? Il sait mieux que moi ce que j'ai besoin dans ma vie. Et précisément, c'est là que se trouve l'importance de formuler nos demandes et nos besoins à Dieu pour que nous, on sache ce dont on a besoin. Si on ne l'exprime pas comme ça, on ne sait pas où on s'en va. On se lève un matin, on le sait que là, me semble, pour le mois qui vient, j'aurai besoin d'argent. Point. Et c'est comme ça que je le formule. En même temps, si je réfléchis un petit peu plus, je m'aperçois que ça ne donnera pas grand-chose, finalement, dans le mois. Parce qu'il y a aussi un problème de temps. Il y a aussi un problème de temps que je vais passer avec les miens qui manque. Il manque autre chose dans ma vie. Quoi au juste, je ne le sais pas. Et de là, le besoin de formuler constamment ce que je pense avoir besoin. Ce que je vais réussir à exprimer, finalement, c'est un vide. Et le Seigneur va l'occuper, ce vide-là. Moi, je vais demander au Seigneur de bien vouloir l'occuper, de bien vouloir remplir ce vide-là. Il manque quelque chose, Seigneur, puis je ne sais pas quoi. Et d'abord et avant tout, j'ai besoin de ta sagesse pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans ma vie, puis savoir ce dont j'ai besoin. C'est de ça que j'ai besoin, cette sagesse-là. Ça peut être aussi cette patience-là, d'attendre que tu me dises exactement ce que j'ai besoin. Ça peut être aussi la fougue et l'énergie pour bien vouloir entendre ce que tu me dis et qu'on n'a pas toujours. Avant de se coucher, on est plein de fougue parce qu'on se dit « demain, je vais m'y mettre ». Puis en se levant le matin, c'est plus dur. En fait, Dieu se sert de nos propres prières pour nous parler. Quand on formule quelque chose, quand on demande quelque chose à Dieu, quand on exprime nos besoins à Dieu, petit à petit, ça se clarifie pour nous. Et sans s'en apercevoir, entre guillemets, on est en train de dire par notre bouche ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu nous met dans notre cœur de ce dont on a besoin. Il va utiliser notre bouche et notre cœur pour nous parler à nous-mêmes. C'est extraordinaire. Hein? Et c'est certain que quand on se retrouve à faire des prédications comme ça, c'est incroyable comment des choses qu'on n'a pas nécessairement préparées, qui sortent de notre bouche, qu'on est en train de dire, puis finalement, c'est une claque d'en face qu'on reçoit en même temps parce que Dieu est en train de me parler. L'action de grâce. L'action de grâce, c'est dire merci. Dire merci, la grâce et la miséricorde, tout ça va ensemble. En français, il y a une autre acception quand on dit merci. Bien, merci beaucoup de ce que tu m'as donné. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Bon. Mais c'est aussi, merci veut aussi dire miséricorde. Par exemple, il y a des paroisses catholiques qui vont s'appeler Notre-Dame de la Merci. C'est Notre-Dame de la Miséricorde. C'est une vieille forme pour dire miséricorde. Merci, et puis ça c'est encore plus évident en espagnol, c'est la même chose que grâce. Gracias et gracia. Un est au pluriel, l'autre est au singulier, mais on sent cette connotation-là. Parce que ça fait partie du même mouvement de grâce que de reconnaître ce qui se passe dans ma vie et de rendre grâce, de dire merci pour ça. Dire merci à tout moment, c'est ça une action de grâce, une action de grâce. Merci pour la vie, merci pour la journée, merci pour le moment passé avec quelqu'un. C'est ça, essentiellement. Ça, en préparant ce que je dis ce matin, je me rappelais qu'à une certaine époque, j'étais à l'université, je me disais, je vais célébrer, je vais prendre une bière pour être plus clair, juste dans des occasions spéciales. Et le mois qui a suivi a été probablement le mois où j'ai le plus pris de bière de ma vie, parce qu'il y avait toujours une occasion spéciale. Passer une soirée avec mon père, et ça, c'est une occasion spéciale. On ouvre une bouteille de brandy. Je vois un cousin que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, c'est une occasion spéciale. J'ai bien réussi un examen, c'est une autre occasion spéciale. Et dans la journée, il n'y avait que des occasions spéciales. Quel bon prétexte! Je me suis dit dans les derniers jours, justement, cette idée-là, faudrait que je la renverse. Et qu'à chaque fois il y a une occasion spéciale, dire merci. On va se saouler de reconnaissance avec Dieu en disant ça. À ça, on est appelé à dire merci Seigneur, merci pour ce moment-là, merci pour ce que je partage avec les autres. Ça nous fait voir évidemment la vie belle parce qu'il n'y a que des reconnaissances. En même temps, ce n'est pas un remerciement candide, puis voir que juste du beau là, dans la vie, parce que ce n'est pas ça non plus le monde. Il y a aussi des affaires épouvantables qui se passent. Il y a aussi des épreuves. Il y a aussi des difficultés qu'on a affrontées. Et pour ça aussi, merci Seigneur. Chaque difficulté, chaque épreuve, chaque résistance de la part d'un autre est une façon de me rapprocher de Dieu. Et merci Seigneur. J'ai à pratiquer ma patience, j'ai à pratiquer tous les dons de l'esprit à chaque fois que je m'affronte à quelqu'un qui résiste à ce que je dis, à quelqu'un qui contredit ce que je dis, à quelqu'un qui fait faux bond à ce que je dis. Je pratique ma patience, je pratique mon accueil, ma miséricorde aussi, mon pardon. Et ça, ce genre de choses-là qui sont essentielles à la vie d'un chrétien, on ne l'a pas naturellement, sinon que dans la mesure où il y a des affrontements, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Il ne faut pas courir après les difficultés. On n'en a pas besoin de ça, de courir après. Mais quand on affronte les réalités de la vie, il y a toutes sortes de choses, et puis il y a des occasions absolument extraordinaires de rencontrer Dieu à travers ça. Parce qu'essentiellement, la prière, c'est une rencontre avec Dieu. Essentiellement, la prière, c'est d'être en relation et en dialogue avec Dieu. C'est d'échanger avec lui. Et certains vont prier comme ça, de fait, hein, dans l'intimité. Ils sont en dialogue. On est en dialogue avec Dieu. On chiale un peu. On critique. On s'aperçoit que ce qu'on vient de formuler comme critique, c'est exactement ce que Dieu a mis dans notre bouche pour nous le dire à nous-mêmes. Et ça continue. C'est des occasions rêvées. C'est une discussion père-fils, père-fille, en fait, qu'on a avec Dieu. Une relation proche, où on échange, où on est ensemble. Quand on fait en sorte, à travers ces difficultés-là, à travers ces résistances-là qu'on a dans la vie, ça nous permet de faire en sorte, de notre part, d'aller chercher davantage de Dieu. Quand on va chercher davantage, c'est ce qui va me permettre de goûter sa miséricorde. Parce que quand j'ai mal réagi à une situation et que je m'aperçois que je n'ai pas été conforme à la foi que je porte dans mon cœur, là, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et cette occasion-là, je dois dire merci Seigneur parce que tu m'as fait goûter ta miséricorde. C'est aussi dans ces moments-là que j'ai l'occasion de sortir de ma sclérose, de la sclérose de mes certitudes et de ma zone de confort. Facile de communiquer avec ce qui est agréable à nos yeux. Facile de communiquer avec les gens qui pensent comme nous, avec les gens qui ont la même vision du monde. Mais quand je suis affronté à autre chose, j'ai une occasion en or et rêver de sortir de ces certitudes et de cette zone de confort-là. Ça fait bouger un peu, c'est irritant. C'est pas de la douce musique à nos oreilles, c'est plutôt une poignée de gravier qu'on frotterait ses tympans. Mais Dieu passe aussi par là pour susciter des attitudes en nous. Ça nous permet de nous critiquer, de nous autocritiquer aussi, de remettre des choses en question. Dans ces situations-là aussi, cette gratitude-là me permet, au lieu de m'inquiéter, comme dit justement le texte, ne vous inquiétez de rien. Faites des prières de supplication et d'action de grâce. Parce qu'au lieu de m'inquiéter, parce que pour aller à la retraite, les gens ne seront pas à l'heure, prions pour eux. Merci Seigneur de pratiquer ma patience. Parce que je n'ai pas tout à fait ce que j'ai pour finir. Je n'ai pas tout à fait ce qu'il faut pour finir le mois. Et que c'est préoccupant. Parce que les créanciers, eux, ne sont pas nécessairement en communion avec la miséricorde divine. Puis, comment je vais faire? Merci Seigneur de me donner ce temps-là pour m'appuyer sur toi, complètement sur toi, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. On peut stresser, on peut s'inquiéter, on peut sacrer aussi, on peut être fâché, on peut pleurer, on peut entrer en dépression, ça ne changera absolument rien au fait qu'on n'a toujours pas l'argent pour payer ce qu'on a payé. Et ça, ça nous éloigne du Seigneur. Ce qui va nous approcher de lui, c'est la paix, la patience que ça suscite, qu'on a développée pour attendre ce qu'on a besoin. Dieu, je me remets entre tes mains, parce que quoi d'autre? Si c'est parce que j'ai besoin de travailler un peu plus, Seigneur, je me sens entre tes mains. Si c'est parce que j'ai besoin de développer ma patience et d'attendre que tu vas me donner ce que j'ai besoin, que ce soit ça. Si c'est parce que j'ai besoin de sentir ce que c'est, vivre avec un certain déséquilibre, Seigneur, merci. Dans le texte, on évoque aussi deux autres façons de prier, en fait, qui découlent de l'action de grâce. Au verset 8, on dit, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Envahir nos pensées par la présence du Seigneur. On ne l'a pas inventé récemment comme façon de prier. Chez les orthodoxes, il y a une façon de prier où on est, dans toute la mystique orthodoxe des moines du désert qui vivaient dans le silence, et eux cherchaient justement à se remplir de l'esprit dans leur compréhension des choses. On va parler de déification chez les orthodoxes, c'est-à-dire qu'on va laisser l'esprit entrer en nous, la grâce de Dieu nous pénétrer, et être présent en nous. On fait le vide de nous-mêmes, une kénose, un dépouillement, comme Christ a fait, pour laisser Dieu nous pénétrer. Et ça, ça se fait entre autres par des prières. Bon, nous, on pourrait le critiquer parce que souvent, c'est des prières répétitives. Bon, mais quand même, il reste qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Et une des prières favorites, c'est « Seigneur, prends pitié de moi ». Christ, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi. Ce qu'on appelle dans d'autres endroits le Kyrie. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Et on répète ça constamment. C'est une humilité devant le Seigneur à laquelle on est appelé. Et il y a tout un exercice qui vient avec ça de respiration. Pour qu'à chaque moment de notre vie, ce qui nous vienne en tête, c'est Seigneur, prends pitié de moi. Et ça suit le rythme de notre respiration. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi. Et ça devient l'unique pensée des gens qui prient de cette façon-là. Ils vont s'arrêter pour lire la Bible, pour lire la philokalie, mais ils vont prier en respirant. Et ça, c'est intéressant. Mais nous, comme chrétiens évangéliques, on dirait que ce soit ça, l'action de grâce. Merci, Seigneur. Remercier Dieu en respirant. Que ça devienne quelque chose de naturel en nous, de constant. Notre vie va changer complètement, mais complètement. La seule et unique pensée qu'on a, imaginez, la seule et unique pensée qu'on a toute la journée, c'est dire merci à Dieu. C'est difficile de voir les choses, de broyer du noir, de voir les choses d'un mauvais angle de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sensible à la critique, qu'il ne faut pas être sensible à ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Mais chaque fois qu'on voit quelque chose de mauvais, c'est une occasion, nous, pour agir, une occasion que Dieu nous donne pour montrer nos convictions chrétiennes à la face du monde. Merci, Seigneur, pour ça. Et de le faire. Parce que la deuxième, justement, et je vais revenir encore sur cette modalité d'avoir Dieu dans nos pensées, mais la deuxième façon de prier qui est évoquée ici, la quatrième en tout, c'est la mise en pratique. Le texte le dit d'ailleurs, ici. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et la pratique fait aussi partie de la prière. Envahir nos pensées de Christ. Bon, ça va avec. Comme on respire, on remercie Dieu comme on respire. C'est quelque chose à atteindre. Est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre? C'est quelque chose qu'on doit, à mon avis, chercher comme chrétien. Il y a évidemment des pensées qui viennent de l'ennemi, des pensées qui nous envahissent et qui sont très présentes en nous souvent. La haine. Ceux pour qui, parfois, on adore se lever la nuit pour les haïr davantage. Et il y a tellement de personnes dans le monde qui ont une propension à être détestées. Président au Sud, par exemple, tu sais, ça va bien, ça nous fait presque plaisir de le détester. Mais cette attitude-là de haine, de toujours voir ce qu'il y a de mauvais dans l'autre, de ne pas vouloir ce qu'il veut nous partager, de résister à cette personne-là, l'attitude que ça suscite a tendance à nous mettre de l'amertume dans le cœur, à nous aigrir. Les convoitises, les choses qu'il y a autour, les personnes qu'il y a autour, est-ce qu'on aimerait avoir? Ça a l'air bien aller pour lui. J'aimerais ça, moi aussi, avoir une voiture, une maison, voyager comme cette personne-là. Et d'ailleurs, ce qu'on nous dit souvent en pensée positive, tu veux quelque chose, visualise-le. Tu convoites quelque chose, visualise-le. Et puis là, on devient comme épris par cette chose-là, parce qu'on veut avoir, mais on se détourne complètement de ce que le Seigneur nous demande, par exemple, et on va vers ça. Puis on essaie de le visualiser. Moi, je veux ça, moi, je veux ça. Moi, je veux vivre de telle façon. Ça peut être ça pour des biens, ça peut être ça pour d'autres êtres humains. Je désire tel homme, je désire telle femme. Puis là, ça devient omniprésent dans mes pensées. Parfois, on n'a même pas de contact avec cette personne-là. Parfois, c'est un contact virtuel. Et ça devient objet de désir. Imaginez, c'est l'ennemi qui travaille. L'ennemi n'est pas de chair et de sang. Ce n'est pas les personnes qui sont là qu'il faut condamner. C'est notre propre attitude par rapport à l'acceptation de ce que l'ennemi nous propose. La complaisance, la résignation. Tout ce qu'on aurait à faire, tout ce qu'on devrait faire pour le Seigneur. Finalement, bon, je ne sais pas, ça vaut à peine. Je ne suis pas sûr d'avoir l'énergie pour ça. Puis ça nous amène à une certaine fatalité aussi. Je n'ai pas vraiment les talents qu'il faut pour ça. Il y en a d'autres qui peuvent le faire. Et puis ça, c'est évidemment une sclérose dans notre façon de vivre comme chrétien qui s'installe en nous. Et ça fait l'affaire de l'ennemi. Moins on est proactif dans la construction du royaume, plus l'ennemi est satisfait. Et c'est une paresse qui s'installe, une complaisance par rapport aux choses. Oui, il y a de l'injustice, mais on ne peut rien changer. Remplacer tout ça par des pensées d'excellence dans le Seigneur. Il ne faut pas non plus se tromper ici. Puis prendre le discours des puissants, prendre le discours du matérialisme et du capitalisme actuel, puis dire, oui, l'excellence dont il parle, être performant, toujours être les premiers, toujours avoir plus, toujours faire mieux pour le patron. Non, parce que notre patron est autre. Des pensées excellentes, voir dans les autres leurs qualités, plutôt que d'apprendre à les détester, voir dans les autres leurs qualités. Et il y en a qui demandent une recherche plus profonde que d'autres. On a besoin de travailler plus fort pour les voir, ces qualités-là. Ce qui ressort, c'est autre chose. Il doit avoir un bon fond, il y a des qualités, je ne sais pas lesquelles, mais il y en a. Cherchons-les. Dire du bien des autres, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose qui nous fait vivre aussi. Dire du bien des autres, qu'est-ce que c'est finalement? On le dit constamment, c'est bénir les autres. Dire du bien, c'est ça, bénir. Bendecir. Dire du bien des autres. C'est ça, bénir. Dire du bien. Ah, cette personne-là a dit quelque chose d'intéressant cette fois-là. Je vois, il travaille, lui, avec une passion inspirante. Et voir ça dans chacun. Et quand on commence à voir ça dans chacune des personnes qui sont ici, ouf, ça fait une communauté assez extraordinaire. Savourer, un autre moment de pensée excellente, savourer les instants de bonheur. Qui peut être manger une barre de chocolat assis sur le banc en attendant l'autobus avec mon neveu. Il y a quelque chose, une complicité là, extraordinaire. Puis lui, tout ce qu'il fait, il me regarde en souriant. Il est bien. C'est tout. Et ça, c'est un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre. Dieu nous a donné l'opportunité, l'occasion de vivre un moment de complicité avec un être humain comme ça, en plus qui est proche de nous. Merci Seigneur. C'est extraordinaire. Savourer ces moments-là. On savoure beaucoup les couleurs ces temps-ci. C'est la création qui se manifeste à travers ça, à travers un paysage. Savourer le moment qu'on passe avec les autres à la pêche, assis d'une chaloupe, d'un canot, sur un lac. Moi, j'ai toujours tendance à penser aux moustiques. C'est pas vraiment un instant de bonheur vu comme ça. Mais oui, il y a autre chose aussi. Et pour d'autres, ça veut dire quelque chose de très positif, malgré tout. Le contact avec le savoir et la critique, moi, c'est quelque chose qui me fait vivre. Lire des éditoriaux de gens qui critiquent, pas juste du pur chialage, là. On essaie d'analyser les choses. Mon dimanche après-midi idéal, c'est ça. Lire les journaux, lire, point. Lire quelque chose qui va critiquer, qui va analyser le monde dans lequel je vis. Que je sois ou non d'accord avec ce qui est dit. Plus souvent qu'autrement, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit, peu importe. Ça me permet d'entrer dans une réflexion. Cette capacité de réflexion-là, de réfléchir sur le monde dans lequel je vis, de le critiquer, de le comprendre, de le saisir, de transformer, c'est un don que Dieu m'a donné. Et ça, ça me donne l'occasion de me connecter avec ce don-là et devenir partie prenante de la construction du royaume de Dieu dans l'histoire. Ce sera modeste que je vais faire après. Il y a un moment de bonheur qui me permet d'y rêver et d'y penser. Évidemment, penser à chaque instant, malgré toutes les gaffes, toutes les bêtises que je commets, que malgré tout, je suis sauvé en Christ. Que le Seigneur, c'est lui mon vrai patron. C'est à lui que j'obéis. Que toutes les affaires plates qui peuvent se passer dans la vie, il y a quelque chose qui est en train de préparer pour moi là-dedans. Et j'y obéis. Ça me permet de prendre de distance aussi par rapport à ce qui m'entoure. À un moment donné, je sentais, il n'y a pas si longtemps que ça, je sentais un drôle de vide. où je me disais, j'ai perdu la fougue d'avant, les affaires ne m'animent plus. En fait, ce n'était pas nécessairement d'être animé, c'était l'animosité qui partait. Je ne sentais plus la même indignation par rapport à certaines injustices. Et en fait, ce que je pense maintenant, c'est que le Seigneur m'a permis de prendre de la distance, de regarder tout ça avec plus de la tête un peu plus froide. Pas de moins m'indigner, pas de trouver les faits plus justes. Ce n'est pas arrivé. Je ne les trouve pas plus justes qu'avant. Il m'enrage moins qu'avant. Peut-être que ça peut me mener à quelque chose de plus efficace, je ne sais pas. On est toujours en progression. Des fois plus lente que d'autres, mais... Et c'est à lui que j'obéis, à ce patron-là, en fait. Le reste, on prend un peu de distance. Les critiques qu'on peut recevoir au travail, les critiques qu'on peut recevoir entre amis, on prend un peu de distance. Bon, on entend ce qu'ils disent, mais en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est toujours d'obéir à Dieu. Peut-être que Dieu les utilise, justement, pour me dire quelque chose. C'est possible. Peut-être aussi qu'il les utilise pour me faire réagir contre ce qu'ils disent. Et ça, je dois le prier, ça. Mais merci, Seigneur, pour toutes ces occasions-là. D'autres moments et de pensées excellentes. Et puis là, peut-être qu'on ne partagera pas tous le même point de vue. Lutter pour un monde meilleur, et même à travers la désobéissance civile, la solidarité que ça demande entre les personnes pour monter sur un pont et dénoncer des réalités. Ça ne donne rien faire ça, selon ce qu'on entend, sauf que depuis qu'ils ont fait ça, tout le monde en parle. Ils ont atteint leur objectif. Intéressant. Essayons de voir ça. Mais quand on vit dans cette réalité-là, de désobéissance civile, de ne pas être d'accord avec ce qu'on nous a mis, ce qu'on nous propose comme pensée dominante, parce que nous, on a une conscience qui nous dit « Non, moi, le Seigneur ne m'appelle pas à ça. » Et de désobéissance civile encore plus, et c'est là, en fait, que ça prend tout son sens, quand c'est pour des principes qui prennent naissance dans la foi dans le Seigneur. Quand on désobéit à des règles, parce qu'on veut être fidèle au Seigneur. Et ces temps-ci, ce n'est pas difficile de faire ça. Hein? Seulement d'exprimer que vous avez la foi dans un hôpital ou dans une école, et déjà, vous êtes en pleine désobéissance civile. Comme chrétien, assumons-le. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas toujours un coup d'éclat, ça, cette désobéissance-là. Mais la désobéissance civile, c'est désobéir, en fait, à ce qui va à l'encontre de ce que le Seigneur nous enseigne et nous met dans notre cœur. Parler de Dieu dans la société dans laquelle on est, parler de notre foi et de la prendre au sérieux, c'est la désobéissance civile. Et on est appelé à faire ça. Défendre nos convictions sur la place publique, on est appelé à faire ça. Et merci Seigneur pour chaque occasion qu'on a de le faire. Et pardonne-moi Seigneur pour chaque occasion que j'ai manquée. Parce que lutter pour un monde meilleur, lutter pour que le royaume de Dieu s'enracine depuis maintenant dans notre monde, bien, c'est quelque chose qui doit nous rendre heureux. Et ces jours-ci, j'étais à un colloque à l'Université Laval, puis on profitait de la campagne électorale, la FTQ profitait de la campagne électorale pour faire des affiches qui avaient de l'air de la campagne électorale, avec des travailleurs qui dénoncent leurs mauvaises conditions, et tout le monde, tous les travailleurs, ont l'air bêtes sur leurs photos. Puis je me souviens d'un compagnon de lutte à l'époque qui me disait, c'est pas vrai, on peut pas être socialiste si on a l'air bête. Parce que ce qu'on veut, c'est le bonheur des gens. Ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent bien. Et ça, on peut l'extrapoler chez les chrétiens. On peut pas être des chrétiens puis avoir de l'air bête. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai de l'air bête. En disant ça, il faut que je me confesse en même temps, sinon ça n'a pas de sens. Parce que quand on respire la reconnaissance pour le Seigneur, quand on le prie, quand on lui rend grâce, on veut le remercier aussi en geste. Pour nous, chrétiens évangéliques, de nos tendances, on ne fait pas les choses pour avoir une récompense à la fin. C'est à l'inverse que ça marche. On le sait qu'on est sauvé. Dieu nous a touchés. L'Esprit nous a envahis. L'Esprit est dans notre cœur, puis il travaille, il bouge, puis des fois, ça chire un peu. Mais il est là, puis il travaille. Il y a un travail de sanctification, il y a un travail d'édification qui se fait par l'Esprit en nous, qui envahit notre cœur. Et c'est ça qui nous sauve, point. Maintenant, quand on sent que le Seigneur travaille comme ça en nous, qu'il est en train de nous transformer, qu'il est en train de nous donner une conscience qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde, de voir tout ce qui est à l'inverse de son royaume, on ne peut plus rester les mains attachées et rien faire. On aura des charismes différents. On le fera de façon différente. Ça peut être dans une communauté ecclésiale, ça peut être dans la société, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être tout ça ou plusieurs choses en même temps. Mais on ne peut plus rester en toute quiétude en attendant que les choses se passent. On a envie de remercier Dieu par nos actions, en œuvrant. Mais cette œuvre-là, quand on a conscience qu'on est sauvé, cette œuvre-là qu'on va faire, ce n'est pas la nôtre. C'est la foi du Seigneur qui agit en nous et on ne le fait pas pour quelque chose en échange. Ce n'est pas du marchandage avec Dieu. C'est gratuit. Des fois, on entend, mais qu'est-ce que ça me donne d'aller tous les dimanches à l'église si je ne suis pas sûr d'être sauvé au final? Déjà, la réflexion ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Pourquoi moi je donnerais de ce que j'ai pour les pauvres si ça ne me donne rien, mon retour? Pourquoi moi je ferais ça, puis les autres, ils ne font rien, eux autres, pour ça? Puis finalement, on va avoir la même chose, la même vie? Non, moi, je n'embarque pas là-dedans. On entend souvent ça. Et ça, ce n'est pas la logique chrétienne. Nous, on a la conviction, un, qu'on est sauvés. Tout le reste est gratuit pour le Seigneur, pour l'édification de son royaume. De toute façon, on a aussi la conviction qu'on ne pourra jamais rembourser toute la dette. Donc, c'est sans limite. Donnons gratuitement. Faisons pour les autres tout ce qu'on peut faire, même si ça nous porte préjudice, entre guillemets, parce qu'on sait très bien, nous, comme chrétiens, que s'il n'y avait pas eu un don gratuit à un moment donné de fait, on serait tous dans la vraie misère humaine. Ce qui nous en sort, c'est le don gratuit de Christ sur la croix. Tout ce que je peux faire, ça ne pourra jamais égaler ça. Donc, chialons pas quand on donne, chialons pas quand on œuvre, chialons pas quand on est en train de compromettre des choses de notre vie pour le bien de ce royaume-là. On a déjà reçu plus. Et c'est ça la conviction fondamentale du chrétien. On a déjà reçu plus que tout ce qu'on peut donner. On ne pourra jamais sentir que les autres ou que Dieu est en dette envers nous. C'est nous qui sommes toujours en dette envers Dieu. Et le but, ce n'est pas de rembourser la dette. Le but, c'est de dire « Merci Seigneur ». Et puis, je fais des actions de grâce. Je vais pratiquer ce en quoi je crois. Je vais le mettre en œuvre pour te remercier. C'est tout. Parce que donner, servir, c'est essentiellement dire merci. Amen. Et puis faisons en sorte qu'on puisse rendre grâce pour ces journées-là d'action de grâce et que, en fait, que toutes ces journées d'action de grâce deviennent des années d'action de grâce au Seigneur. Et comment, Seigneur, moi, je peux te donner? Comment je peux te servir, Seigneur, à partir de cette conviction-là que j'ai, que tu m'as sauvé? Et quand on fait notre prière de repentance, c'est ça, c'est Seigneur, je me reconnais, moi, comme pécheur. Et je sais que tu m'as sauvé gratuitement. Et merci pour ça. Et maintenant, tout ce que je te demande, Seigneur, c'est de m'envahir, d'envahir mon cœur. Remplis-moi de ton esprit pour que je puisse servir la cause de ton royaume ici dans le monde où je me trouve. C'est ça essentiellement la prière de repentance qui est une prière d'action de grâce aussi. Amen.